Une réaction de nos deux journalistes qui s'intéressent à la musique, à Bruce Springsteen notamment, et pour Judith Pérignon, puisqu'elle va se livrer à une grande traversée consacrée aux chanteurs américains, et puis bon, Christophe Combe qui s'intéresse à toutes sortes de musiques, y compris à Springsteen, mais aussi à la musique politique, avec une sensation donc de déjà entendu pour certains de ces hymnes politiques. Et pour les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé, Christophe?
Surtout, une constatation qu'on peut faire, c'est si on ne va pas dans les mythiques, on n'a aucune chance de les entendre. Moi, je les ai toutes découvertes, hein, personnellement. Kindle Dust, pour Benoît Hamon, on peut dire que ça s'est retourné un peu contre lui. C'est vrai que personne ne l'a retenu. Enfin, il y a vraiment un truc un peu subliminal, hein, comme vous disiez. Mais moi, je me souviens, la seule musique dont je me souviens, parce qu'on l'entendait un peu à l'époque, c'était Theodorakis pour le PS, qu'on entendait vraiment...
Qui était Goldman un vrai... pour Jospin.
Je me souvenais pas du tout de
ça. Vous connaissez quand même Jean-Jacques
oui,
Goldman.
Oui, je connais Jospin aussi d'ailleurs. Mais...
Il avait même récidivé en 2002 en prenant la chanson Ensemble de Jean-Jacques Goldman avec le soutien de l'artiste, évidemment.
Et puis on se souvient de quelques polémiques. L'UMP avait pris un tube de MGMT oui, également exact, sans avoir demandé l'avis d'MGMT. Judith Pérignon sur ses hymnes politiques.
Bah oui, je pense que la musique, elle a perdu toute place dans les meetings politiques. Et c'est vrai qu'il y a eu une génération, moi je me souviens de la génération de mes parents qui était très politisée, où il y avait des chansons très politiques et des chanteurs vraiment installés comme tels. Et aujourd'hui, on entend une petite...
Jean Ferrat, par exemple.
Oui, non, mais il y avait une connexion de la chanson française avec la politique. Là, on entend, ils utilisent un peu une pop efficace. Et puis qu'on entend, effectivement, si on ne va pas dans ces meetings, on ne l'entend pas. Et quand on assiste à ces meetings, elle est inexistante, c'est une musique de fond, quoi.
En l'occurrence, dans le cas de Springsteen, oui, sa chanson Born in the USA a été récupérée de manière tronquée par les Républicains. Donc là, on est vraiment dans le cas d'une musique utilisée...
Oui, ça, il y a une vraie histoire là-dessus, bien sûr.
Contre l'artiste.
Eh bien, racontez-nous cette vraie histoire.
Non, mais Springsteen est aujourd'hui encore un homme dont tous les politiques veulent utiliser la musique. Bon, et ça commence effectivement en 84 avec ce titre Born in the USA que Reagan veut utiliser. Et cette chanson qui a été si mal comprise, puisque c'est une proteste song, mais dont on veut faire un hymne patriotique, Springsteen est obligé d'interdire à Reagan d'utiliser sa chanson. Mais aujourd'hui, Springsteen faisait l'ouverture des meetings de Sanders, d'Hillary Clinton. On a besoin de la musique de Springsteen quand on est un politique. Ça...
Et là, pour le coup, il laisse faire quand il s'agit...
Il a laissé faire, il a laissé faire là, sur la fin, parce qu'il s'est beaucoup plus engagé lui aussi.
On va écouter du Bruce Springsteen, mais pas cette chanson-là. Ça, c'était Johnny 99 de Bruce Springsteen dans l'album Nebraska, 1982, un titre important.
Oui, un titre, donc dans cette grande traversée qu'on a fait pour cet été, qui sera diffusée à la fin du mois de juillet sur Springsteen, on a vraiment travaillé sur la connexion de Springsteen sur cette Amérique, disons prolo, plutôt blanche, et c'est dont il vient. Et qu'il a finalement pas voulu quitter quand il a rencontré le succès au mi-temps des années 70. Il chantait comme tout rocker qui voulait s'arracher de sa ville et pas vivre comme ses parents. Et pourtant, il retourne en chanson toujours vers les vies qu'il aurait pu avoir, en fait.
Dans quelle mesure coïncide-t-il justement avec cette Amérique-là? Pourquoi est-il devenu un symbole de l'Amérique?
Parce qu'il en vient et qu'il a pas voulu la quitter. Il est très imprégné de son histoire familiale, de ses petites villes où il a grandi. Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui écrivait même avant le succès, qui racontait ses copains, qui en faisait, et tous ses enfants de prolo comme lui, qui rêvaient de devenir des rois du rock'n'roll. Lui, il en est l'élu, mais il n'a pas cessé d'écrire sur eux.
Et dans quelle mesure, justement, se distingue-t-il ou au contraire, ressemble-t-il à d'autres grandes voix qui ont pu incarner cette Amérique blanche, je ne sais pas, d'Elvis Presley, hein, mettons Johnny Cash par exemple.
Oui, et puis il s'inspire aussi de la tradition de Woody Guthrie, en passant évidemment il y a Dylan qui compte énormément pour lui. Springsteen c'est un héritier, c'est pas un des pionniers, il est trop jeune, enfin il est plus si jeune, mais il est d'une génération qui n'a pas fait la révolution musicale, mais c'est un héritier et il rend hommage à tout cela, de Guthrie à Elvis Presley, à Dylan effectivement.
Christophe Comte, est-ce qu'on a des équivalents de Springsteen en France ?
Comme ça, là, si vraiment... Ah, non, je dirais qu'il y a Bernard Lavilliers.
Il y a Mathieu Coquet qui vient d'entrer dans le studio.
Bernard Lavilliers sera un peu un équivalent Springsteen, même si musicalement ça n'a rien à voir, et puis si sa carrière n'est pas du tout la même, mais c'est quelqu'un qui effectivement a continué à chanter toute sa vie le monde ouvrier, enfin régulièrement rappeler ses racines à Saint-Étienne. Donc il y a un peu de ça chez Lavilliers, qui reste un chanteur assez sincère. Pour le reste, il y en a évidemment qui sont proches.
Il n'a jamais chanté la France, Lavilliers. Au sens où
la France patriotique, non, mais Springsteen non plus, d'une certaine manière. Donc Springsteen a chanté l'Amérique déclassée, des délaissée. Il a toujours mis un regard très précis, très tendre aussi sur l'Amérique ouvrière. Donc on peut dire que Lavilliers est un peu... Enfin, moi, je ne me fais pas le défenseur de Lavilliers, mais c'est
moi,
vraiment le nom...
Je peux tout à fait défendre Lavilliers.
C'est le nom qui me vient.
Les barbares, enfin, il y a voilà, beaucoup
non, mais
de,
c'est un chanteur
de chansons de Lavilliers.
Qui a une continuité dans son œuvre, qui, sur son prochain album, probablement continuera à raconter la France d'aujourd'hui. Après, il y en a d'autres qui vont, qui viennent, mais il n'y a jamais eu comme ça de chanteurs comme Springsteen en France, mais la France n'est pas l'Amérique non plus. Donc c'est...
Il y en a un qui a essayé, c'était Jean-Patrick Capdevielle, qui a essayé d'être dans la veine de Bruce Springsteen, et ce qui lui a valu d'ailleurs la détestation
immédiate.
C'était
plus la veine musicale, et d'une certaine manière, sa carrière a quand même été assez courte, donc c'est difficilement...
Les fans de Springsteen en France le détestent cordialement.
On va écouter une autre chanson de Springsteen, One Step Up.
Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, but she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately. We ain't learning. We're the same sad story, that's a fact. One step up and two steps back.
Présentation, Judith Pérignon, One Step Up.
Ah, ça c'est une chanson plus qui arrive après, qui est plus sur un album intimiste, sur la construction de la vie. C'est la période un peu sentimentale de Springsteen. Il cherche à se construire comme homme, comme père, comme mari. Oui, on arrive dans les années 90 là.
Ouais. Christophe Comte, quand je vous ai demandé une comparaison, vous avez cité à juste titre Lavilliers, mais moi, j'attendais aussi des gens comme Johnny Hallyday. Vous connaissez Johnny Hallyday ?
Oui, j'en ai entendu parler. Oui.
Mais on ne peut pas faire la comparaison quand même.
Déjà, Johnny Hallyday n'est pas un auteur. Johnny Hallyday n'est pas un auteur. C'est quelqu'un, c'est d'une certaine manière un ventriloque. Il a chanté à peu près tous les auteurs français, des plus prestigieux jusqu'aux moins prestigieux. Et toutes les époques pour lui ont été un renouvellement musical qu'on peut contester souvent, mais aussi un renouvellement de thèmes qui sont très opportunistes. Il est allé jusqu'à chanter une chanson écrite par Jeanne Chéral sur Charlie Hebdo. Est-ce que Johnny était le mieux placé pour ça? On ne sait pas. Mais en même temps, il représente la France, donc c'est toujours ambigu.
Du point de vue de Charlie Hebdo, on peut penser que non.
Voilà, mais du point de vue de la France, c'est quand même Johnny le porte-parole, qu'on le veuille ou non. C'est lui qui, à un moment, incarne une certaine la voix de la France, on peut dire.
Judith Pérignon, puisque je vous ai choqué en osant cette comparaison.
Oui, vraiment, je l'entends parfois, effectivement, elle me hérisse le poil, parce que Springsteen a écrit chaque mot de sa musique, chaque note de sa musique. Il est aussi quelqu'un, c'est quelqu'un qui a une conscience sociale et politique très forte. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Johnny Hallyday, qui représente un élément important du patrimoine musical français.
Ouais, seuls les débardeurs en cuir peuvent les rassembler à un moment.
Et même sur scène, ça n'a rien à voir, aucun effet spécial chez Bruce Springsteen, quelque chose de brut, quoi.
Mathieu Conquet.
Est-ce que parmi les j'imagine que Christophe Comte connaît bien cet album, il y avait une adaptation de Hamlet par Johnny Hallyday qui avait particulièrement marqué, qui reste encore comme une sorte de nanar dans sa carrière. Est-ce que chez Bruce Springsteen, il y a eu ces moments, ces tentatives, pas de légitimation culturelle, mais de, je vais me réapproprier un objet culturel fort lié à l'histoire de l'Amérique?
Il y a l'album Ghost of Tom Joad, c'est-à-dire que Tom Joad, c'est le personnage, c'est le héros des Raisins de la Colère de Steinbeck. Et il va construire tout un album avec le fantôme de Tom Joad. Il va se promener à ce moment-là à la frontière du Mexique et il raconte les nouvelles migrations, ceux qui cherchent un Eldorado comme Tom Joad dans les années 30 aux États-Unis. Springsteen a beaucoup lu, et c'est un enfant de prolo qui dure pas longtemps à l'école, qui n'aime pas l'école. Mais pour sa musique, il va beaucoup lire et se réapproprier les grands romans américains. Donc effectivement, par le biais de la littérature, il va nourrir sa musique.
Christophe Comte, j'ai regardé qui étaient les chanteurs les plus populaires en France, faute de savoir qui pouvait en quelque sorte transposer Springsteen en France. Et je me suis rendu compte que le chanteur préféré des Français, c'était Jean-Jacques Goldman, un large pourcentage. Ensuite,
qui n'a pas fait une chanson depuis 30 ans. 30 ans, donc
oui, c'est ça.
Ça montre un peu le... C'est un peu comme Simone Veil qui est toujours dans le classement des personnalités préférées alors qu'on la voit plus depuis très longtemps.
Enfin, les deux autres, de toute façon, n'ont pas composé récemment non plus puisqu'il s'agissait de Jacques Brel et Georges Brassens. Et du côté des femmes, c'était Edith Piaf.
Ensuite, où est-ce que vous êtes renseigné, Guillaume ?
Le seul sondage qui aujourd'hui est disponible sur la question, mais en tout cas, cela signifie, Christophe Comte, qu'il y a peut-être un problème de renouvellement des générations.
Alors, il y a un problème de renouvellement, de curiosité du public, parce que des générations depuis Goldman, il y en a eu beaucoup. De grands auteurs sont apparus, les Miossec, Dominica, Murat, enfin il y a beaucoup de gens qui ont écrit, y compris sur la société française. Après, si les gens ne vont pas les écouter, c'est un autre problème. C'est un problème des médias, c'est un problème aussi de curiosité des gens. Si on s'attache toujours à cette espèce de fantasme d'une France qui allait mieux, et c'était toujours mieux avant, dans les années 80, Goldman cartonnait, il y avait déjà la crise, il y avait déjà des chômeurs, et les gens ont l'impression que c'était une période plus heureuse. Et de la même manière, dans les années 80, on se référait toujours aux années 60, qui paraissait aussi une période plus heureuse. Donc il y a toujours ce truc-là. On se demande quand est-ce que la France sera synchrone avec son histoire. Ça, c'est un peu problématique, mais c'est pas que pour la musique.
Mais Guillaume, je vous posais la question, c'est pas pour vous piéger, sur les sources de qui sont les chanteurs préférés des Français, parce que là, vous référez à des sondages qui sont déclaratifs. C'est un petit peu comme quand vous demandez aux téléspectateurs quelle chaîne ils regardent le plus, ils vous disent toujours Arte, alors que dans la réalité, les gens regardent tous TF1 en premier. C'est intéressant de se reporter aux chiffres de vente et aujourd'hui aux chiffres du streaming et aux chiffres de YouTube, alors qu'ils peuvent être gonflés artificiellement parfois, mais à bien regarder, aujourd'hui, les musiques les plus consommées sur Internet, ce sont le rap, les musiques groove. C'est vraiment ça qui passe devant. Et je vous garantis que Jacques Brel n'y a pas bonne part pour l'instant.
Et justement, lorsqu'on essaye de voir comment Springsteen a évolué, Judith Pérignon, celui que vous avez suivi et qu'on retrouvera grâce à vous dans une grande traversée cet été, est-ce que le renouvellement des générations aux États-Unis se porte mieux? Est-ce que Springsteen continue sans conteste à incarner une certaine forme de chanteur blanc américain?
Oui, Springsteen, il a eu ses hauts, ses bas, mais il est là, et il remplit ses salles, et il est respecté. Il y a beaucoup de groupes qui lui rendent hommage. Il a une place un peu à part parce qu'il a un chemin de traverse. Il n'a pas été punk, il n'a pas été. Il s'est nourri de toutes les musiques américaines, de toutes les décennies. Donc, il a son identité à lui, plus ou moins aimée, mais il est là. Et puis, effectivement, il y a des groupes aux États-Unis, des jeunes groupes qu'on voit revisiter les 60s. Enfin, il y a le hip-hop, il y a le rap, et tout ça se mélange très bien. Comme le disait Christophe Comte, là-bas, il y a des jeunes groupes qui métissent un peu tout, qui réinventent. Il suffit de tendre l'oreille.
Ce qui est intéressant Christophe dans l'histoire contemporaine des États-Unis concernant la musique, c'est que pendant très longtemps, les artistes populaires ont évité de s'engager justement. Alors, il y avait les chanteurs country, qu'on ne connaît qu'aux États-Unis. Certains d'entre eux, on ne les connaît pas du tout ailleurs. Mais ce qui est intéressant vraiment dans l'histoire très récente, c'est la prise de parole des chanteurs et des chanteuses de R&B et de rap sur des sujets bruts. brûlant comme le Black Lives Matter, quand même, qui a été quand même le. Il y a un nombre de chansons, la prestation de Beyoncé au Super Bowl qui arrive avec tout l'attirail des Black Panthers, qui est vu par des millions de gens. C'est un acte certes publicitaire, mais aussi politique très important, parce que du jour au lendemain, une Amérique qui n'est pas du tout sensible à la lutte, notamment contre les violences faites aux Noirs, aux jeunes Noirs qui sont tués dans la rue. Il y a eu un nombre de manifestations de chansons, d'artistes qui se sont élevés contre ces violences policières sans précédent depuis très longtemps, depuis les années 60. Et les chansons résonnent avec ça et ce sont des artistes très populaires. C'est ça la différence.
Judith Pérignon.
Oui, non, c'est vrai que du côté de la black music, on voit une génération. La musique, c'est un ascenseur social aux États-Unis et on pouvait ne plus regarder derrière soi. Et les chanteurs noirs aujourd'hui s'impliquent, mais il faut s'interroger après sur la puissance des chansons, sur l'impact d'une chanson. On voit, il y a maintenant un siècle de protestants et pourtant l'Amérique ne règle rien.
Ça, c'est pour l'Amérique. Et on pourrait tenir un discours semblable pour la France, puisque si on met de côté le rap, on voit qu'il y a peu de chansons de protestation. On songe aussi à une chanson qui a bercé notre jeunesse, enfin en tout cas la mienne, celle des Clash, White Riot, qui a parfois été mal comprise, qui consistait à dire que la révolte chez les Blancs était peu portée sur le plan politique. Si on regarde aujourd'hui les chanteurs français, Christophe Comte, en dehors, encore une fois, des chanteurs de rap, qui a un message politique ?
Certains d'entre eux ont un message politique, mais qui a un message, disons, qui n'est plus aussi binaire et aussi... on n'est plus dans une période où on est un affrontement gauche-droite, où il y avait des chanteurs de gauche, des chanteurs de droite, il y avait Sardou d'un côté, Jean Ferrat de l'autre. On n'est plus dans ce manichéisme. Sardou arrête la chanson. Bon, mais aujourd'hui, il y a quand même des chansons politiques dans à peu près tous les albums qui sortent. Vous avez l'album de Camille qui vient de sortir, qui est un album qui est pour le coup totalement hors du temps, qui est une sorte de bulle, et il y a quand même une chanson qui s'appelle Nuit debout, et qui est en référence au mouvement Nuit debout. Il se trouve que quand elle en parle, elle dit « moi j'aurais aimé être là, j'aurais mettre parmi ces gens ». Donc forcément, le politique infiltre les chansons beaucoup moins, de manière beaucoup moins caricaturale qu'avant. Et ça, c'est nouveau.
Un mot de conclusion, Judith Pérignon, votre grande traversée sur Bruce Springsteen pour découvrir un autre visage de l'Amérique.
En tout cas, pour s'enfoncer un peu profondément dans l'Amérique, à travers la vie de quelqu'un qui maintenant est une rock star, mais on peut se balader dans les petites villes et les histoires des familles américaines à travers son histoire, et on a eu un grand plaisir.
Et puis, on vous retrouve, Christophe Comte, dans les Arocs. Et je m'aperçois d'ailleurs que cette semaine, vous avez adressé une lettre à François Bayrou. Oui, vous connaissez bien, parce que vous le tutoyez. Et vous commencez cette lettre en disant « Aide-moi, je ne sais plus à qui je dois m'adresser, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, numéro 3 du gouvernement, au président du MoDem ». C'est une lettre assez acide. Comme on vient d'apprendre sa démission, vous allez reformuler cette lettre.
Non, finalement, parce que ça se termine à peu près comme ça. C'est le moment où Macron va te lâcher. Tu ne seras plus rien.
Et oui, puisque vous considérez qu'il était trop nombreux, c'est ce que vous trop écriviez nombreux, à la fin, et puis peut-être pour rester.
Et puis peut-être un peu trop surgonflé de son ego pour penser qu'il pouvait être, il pouvait pas être éjecté, ce qui visiblement n'est pas le cas.
En tout cas, vous avez vu juste sur le caractère un peu contradictoire de sa posture,
finalement,
son sort s'est dénoué. On vous retrouve donc dans les Inrocks.